Et vous écoutez France Culture. L'irréparable me hante, Charlotte Rampling. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui est heureux ce soir de vous convier à écouter la seconde partie de notre entretien avec Charlotte Rampling. Il sera question d'amour parmi les plus fous, bestiaux et spectraux, de Max Mon Amour, de Nagisa Oshima et des films tournés avec François Ozon. Évocation au second temps d'émission d'une perle noire de la comédie italienne sortie en DVD chez Tamasa. Venez donc prendre le café chez nous d'Alberto Latuada. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre vidéo, Mauvais genre cinéma ce soir et donc notre seconde rencontre avec Charlotte Rampling. J'étais pour cet événement marquant en votre compagnie, Philippe Rouillet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Philippe Rouillet, ce soir nous avons eu précédemment l'évocation des Swinging London, on a eu Visconti, Liliana Cavani, on a eu d'autres.
John Borman,
Patrice Chéreau. Ce soir, ça va être qui?
Eh ben, ça va être Oshima, et ça va être Ozon.
Donc, et Max Mon Amour, Sous le Sable et Swimming Pool.
Voilà.
Essentiellement, qui sont effectivement les amours fous de Charlotte Rampling. Et puis après, on parlera d'un film que moi, j'attendais de voir depuis 50 ans. Parce que dans ma famille, le film a fait beaucoup de succès
rare.
Et ça ne sortait nulle part, quasiment jamais à la télé, jamais en salle, jamais en DVD. Je pense qu'il y avait peut-être une édition espagnole, mais ne parlant pas cette heureuse langue, je ne pouvais pas avoir accès au film. Et là, bravo Tamasa, puisqu'on a enfin à la fois un film de Latuada, ce qui est quand même pas tous les jours, et puis cette comédie noire, on vous en dira plus, parce qu'effectivement, le mauvais genre est là. Ah, son con, mais en attendant de parler de tout ça, monsieur Philippe, Gérard May, le festival 2019.
Qui s'est clos dimanche dernier.
Oui, alors.
Alors.
Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qui faut-il aller voir? Qu'est-ce qu'il faut pas voir?
Alors, c'était un cru un petit peu moyen, il faut le dire. On a été un petit peu déçus dans l'ensemble. Mais c'est le reflet de la production, hein. Donc on peut pas faire, avec des films qui ne sont pas là. Avec une tendance cette année vraiment au post-apocalyptique, on sent bien que les préoccupations écologiques, la terre est morte, etc., les grandes peurs sont à situer de ce côté-là. Alors à côté de ça, le Grand Prix, il est à l'image des deux présidents du jury, Kervern et Delépine. C'est-à-dire qu'on a un Grand Prix grolandais, pourrait-on dire. C'est le 13e volet de la série des Puppet Masters. Vous savez, la série qui était initiée par Charles Band à la fin des années 80, avec ce marionnettiste qui a des petites marionnettes qui tuent les gens. Et on est vraiment dans le, au-delà du bis. On flirte avec le Z. Et là, cet épisode-là s'appelle The Littlest Reich, donc le Reich le plus petit. Car Monsieur Toulon, qui est joué par Udo Kier dans le pré-générique, et qui meurt.
Saint homme.
Et qui meurt, et 30 ans après, on retrouve ses marionnettes lors d'une vente aux enchères, et ce sont des marionnettes nazies. Donc, on comprend pourquoi elles s'en prennent en priorité aux homosexuels, aux juifs, aux gitans, et ça nous vaut quelques réflexions, vraiment très apolitiquement correct, un personnage qui dit bah, « avec une marionnette comme ça, on aurait pu débusquer Anne Frank de son grenier ». Il y a une mini-marionnette d'Hitler qui finit comme il se doit dans un four. Enfin, voilà, c'est réalisé évidemment à la truelle, mais on s'amuse bien, c'est le record des punchlines. Et j'entendais le jury rire très fort derrière moi, et je savais que ce serait le Grand Prix. Et ce fut aussi le prix du public. Donc d'une certaine manière, tout était là. Nous, la critique, évidemment, on avait meilleur à se mettre sous la dent. Et alors, c'est un film vraiment formidable qui, malheureusement, ne sortira qu'en vidéo, en VOD, DVD Blu-ray, chez nos amis de Wildside, début avril.
On en
reparlera. C'est un film suédois qui s'appelle The Unthinkable. Et c'est réalisé, alors ça, c'est déjà très caractéristique, c'est réalisé par un collectif. 5 jeunes types qui ont moins de 30 ans, qui sont auto-appelés Crazy Pitcher, après avoir fait des courts-métrages, ils se sont lancés dans l'aventure du long. Alors, j'ai discuté avec eux, ils ont créé un espèce de studio à 2 heures de Stockholm, ils ont un bâtiment où ils font tout. C'est-à-dire que ça leur sert de studio, de tournage, et de l'écriture à la post-production, ils font tout à eux cinq. Bon, évidemment, il y a des acteurs, il y a un co-scénariste et tout ça. Mais je veux dire, pour tout ce qui est de la fabrication du film, ils le font vraiment ensemble. Et le film, c'est très intéressant parce que c'est un film qui tisse ensemble l'intime et l'épique. C'est-à-dire que ça commence vraiment comme un film de Bergman, c'est-à-dire qu'on est dans la Suède aujourd'hui et un jeune homme s'entend pas du tout avec son père. Il y a une relation qui passe pas à la famille, qui joue évidemment sur les relations qu'il a avec sa petite amie. Il n'arrive pas à s'affirmer, etc. Donc on est dans un cinéma vraiment de conflit, un cinéma de chambre. Et puis tout d'un coup, ça bascule, on arrive 10 ans après, il est devenu musicien célèbre, et à ce moment-là, la Suède bascule sous de mystérieux assauts terroristes. Et tout d'un coup, l'idée, c'est comment les conflits personnels vont surnager au milieu de cet univers d'apocalypse. Et ces jeunes gens ont réussi ce film... Moi qui m'ai un peu évoqué Cloud Atlas pour la naïveté, l'émotion forte et puis la grandiloquence et le spectaculaire de certaines séquences, tout tournait à l'économie. L'ensemble du film coûte 2,5 millions. Et je leur dis, mais comment faites-vous pour faire... par exemple, il y a une séquence cataclysmique d'accident de voiture sur un pont. Ils ont été chercher des vieilles carcasses et ils ont mis des moteurs de tondeuses à gazon dedans. Je veux dire, c'est que comme ça de la débrouille, c'est des feuilles de décor, c'est du matte painting, on est devant des images sublimes, mais on sait que si la caméra déviait de quelques centimètres, on serait vraiment dans le hors-champ du tournage. C'est vraiment un film très très passionnant, je pense qu'on en reparlera au mois d'avril quand il sortira. Il a eu le prix du jury en plus, le prix de la critique, et donc voilà, c'est vraiment le 3 prix en tout, comme pour les marionnettes nazies, 3 prix aussi. Donc voilà, c'est les deux films qui ont surnagé de cette compétition.
Très bien, bah écoutez, merci Philippe. On peut saluer aussi la figure d'Udo Kier qui était
invité spécial.
Primus inter pares du festival.
Et qui s'est donné. Il était là quasiment les 5 jours. Et il a toujours été délicieux en scène, regrettant, et là c'était un point commun avec les présidents du jury, quand on lui a donné sa coupe, regrettant qu'il n'y avait pas de vin dedans. Ah. Pour en boire tout de suite.
Qu'est-ce voilà. L'indienne, ça peut, on peut.
Car nos amis Kervet et Lépide ont ouvert le festival en disant, on déclare ouvert le festival, nous voulons avoir peur et des litres d'alcool.
Ah bah très bien, voilà, un excellent programme. Udo Kier a retrouvé les entretiens Le Monde, Mad Movies,
les cahiers du cinéma. Voilà. Donc... Il a beaucoup donné, il n'a pas été avare de sa parole et c'était riche en anecdotes savoureuses.
Merci donc Philippe. Moi je signale en ce qui me concerne dimanche à 23h10 sur la chaîne Arte le documentaire sur Schwarzenegger de Camille Jusa et Jérôme Momcilovic. Donc nous serons au rendez-vous, mais en attendant autre rendez-vous. Celui qui nous attend avec vous, Céline Duchesnay.
Bonsoir, mon cher François.
Bonsoir. Alors ce soir, qui, quand, comment et où ?
Déjà, première question, qui ? C'est une personne qui s'appelle Sol Elias.
J'ai fait un singulier héritage, l'héritage de mon oncle qui, pendant 44 ans, a tenu... une sorte de journal de bord sur sa schizophrénie. Et quand je dis journal de bord, j'entends par là des dizaines, centaines, pour ne pas dire milliers, de ce qu'il appelait ses petits papiers, c'est-à-dire de feuilles, qui pouvaient être des feuilles A4, qui pouvaient être aussi des objets, comme c'était un gros fumeur, des intérieurs de paquets de cigarettes, des intérieurs de paquets d'allumettes, des agendas, des bloc-notes, des morceaux de nappes en papier qu'on trouve dans les restaurants. Tous ces objets-là, toutes ces matières-là, il les griffonnait, il les écrivait, il les réécrivait, il les repassait de son écriture au crayon, au bic noir, rouge, vert, avec des formes, certains mots qui étaient entourés, d'autres pas, etc. Et il les collectait dans d'énormes sacs poubelles bleu ciel, et c'était ce qu'il appelait mon œuvre, l'héritage à ma nièce, sa nièce étant moi.
La nièce, c'est elle, Sol Elias, qui à partir de cet étrange héritage, le contenu de quelques sacs poubelles, décide d'écrire son premier roman, Tête de tambour, tout juste sorti aux éditions Rivage. Alors nous sommes chez elle et devant moi, elle a disposé des dizaines et des dizaines de petits papiers de son oncle qui aujourd'hui sont précieusement rangés dans de grandes boîtes. La matière première de Tête de tambour.
Toute petite, enfant, il m'a dit, mais vraiment quand je dis enfant, c'est à l'âge de 4-5 ans, hein, un jour, je regardais ces piles de papier et j'étais à la fois effrayée et fascinée, voilà, dès l'enfance, par ce que je voyais sur son bureau, par cet tas amoncelé et illisible. Et il m'a dit très tôt, un jour tu écriras le livre que moi je ne pourrai jamais écrire. Donc cette conscience-là, il l'avait depuis toujours. Mon oncle disait qu'il avait vécu pour rien, qu'il aurait pu tout aussi bien ne jamais naître, que ça aurait peut-être soulagé sa famille et l'humanité avec. Il avait un regard à la fois très lucide et très cruel sur lui-même. Et c'est vrai que cet héritage, en même temps, c'était la seule chose dont il était fier et dont il espérait qu'il aurait une continuité, si je puis dire. Il avait l'idée qu'il voulait être un écrivain, qu'il voulait écrire un livre, mais que sa maladie ne lui permettrait jamais d'écrire. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre de la mission, de la transmission aussi, et bien sûr, quelque chose de très écrasant aussi. Parce qu'un héritage comme ça, on ne sait pas vraiment... quoi en faire, et encore une fois, si on va pouvoir en faire quelque chose. Et un jour, je me suis armée de courage et j'ai été littéralement mettre les mains dans le cambouis, dans cette matière brute. Et j'étais hantée à cette époque par l'image du spéléologue qui va essayer de descendre au plus profond qu'il le peut. Une équipée qui m'aura quand même pris pas loin de 6 mois. Hein. Quand je dis 6 mois, c'est 6 mois à plein temps, 8 heures par jour. Parce que, encore une fois, ces petits papiers sont illisibles. Si on les regarde, par exemple, cette feuille, vous voyez, qui n'est écrite que d'un côté, avec donc une première couche au crayon à papier, une deuxième au crayon Bic bleu, repassée d'un crayon Bic rouge, l'ensemble entouré avec des sortes de flèches qui lient des sortes de bulles les unes aux autres, et puis des choses très prosaïques, comme par exemple « aller m'acheter des paquets de cigarettes » avec des aphorismes remarquables, comme par exemple « Créer un monde où ni l'art ni Monster's Keys n'existent ». Une sorte de cartographie en fait de son esprit, hein, c'est quand même ce qui caractérise les personnes atteintes de schizophrénie, c'est la difficulté à faire le lien entre les choses et à faire unité. Ma démarche, c'était quand même clairement d'écrire un livre qui serait un roman. Et ce roman, bien sûr, s'inspirerait un petit peu de faits et de personnages réels, puisqu'il s'ancre quand même dans la vie de cet oncle, qui se définissait lui-même comme un fou qui avait traversé le demi-siècle comme une météorite, donc sous-entendu pour venir se cracher, s'écraser à la fin. Mais mon idée, c'était vraiment de dépasser ça par la fiction et de proposer une vraie œuvre de fiction, moins à partir des faits réels qu'à partir de ce matériau du réel qu'étaient ces notes qu'il m'avait laissées, et aussi de faire entendre sa voix dans ma voix.
Tête de tambour, le roman de Sol Elias, est un texte polyphonique. On entend les voix de 3 personnages. Alors, il y a l'oncle, prénommé Manuel, il y a la voix de son double littéraire, Anaël, et celle de la nièce devenue adulte, Soledad. 3 voix qui, à travers une véritable fiction, nous ne sommes pas dans le témoignage ni dans l'essai sur la folie, nous embarquent dans un récit sans concession mais empreint de poésie, une longue et douloureuse descente aux enfers dans la tête d'une personne schizophrène, mais aussi le huis clos familial et l'explosion de la famille. Tête de tambour interroge la norme. En cela, c'est un livre très queer qui casse les frontières de la binarité, le bien, le mal, la tête folle ou la tête saine, on ne sait plus trop, mais qui évoque aussi les forces souterraines de l'héritage, de l'hérédité et du destin, car il y a toute la puissance de la tragédie grecque dans l'écriture de Sol Elias. Tête de tambour est donc un roman à lire de toute urgence. Il vient de sortir aux éditions Rivage.
casse les frontières de la binarité.
Ah, j'étais sûre que ça allait vous plaire.
Ça a été fait pour moi, ça c'est une formule.
Et j'ai utilisé le mot queer aussi.
Ah bah oui, bah ça c'est un mot comme camp, qui est un mot familier des auditeurs et des membres de l'équipe de Mauvais Genre. C'est très intéressante, je dirais, texte fort intéressant, ça fait penser à la fois au... à l'héritage transmis par Glenn Gould, dont les notes de travail et les réflexions étaient entreposées dans le gigantesque sac poubelle. Et puis on ne peut pas penser à ce qui est arrivé un jour à notre invité de ce soir, Charlotte Rampling, qui est un brocanteur londonien, est venu rapporter une énorme quantité trouvée sur le trottoir d'archives maternelles, d'archives écrites que sa mère avait laissées et que son père avait... laissé dehors, et qu'un jour ça a été retrouvé par un brocanteur qui est revenu les rapporter à Charlotte Rampling. Il y a comme ça un jour des héritages qui vous reviennent sous une forme un peu sauvage. Voilà, ce soir donc, l'invité de Mauvais Genre, c'est Charlotte Rampling pour le deuxième partie du grand entretien qu'elle nous avait accordé avec ce soir, eh bien, les amours fous, bestiales et spectrales qui ont pu traverser sa carrière d'actrice.
Hello, Max.
Max, viens t'asseoir. Shake his hand. Max. Max.
How are you this morning?
Bonsoir, Max.
Bonsoir, Max.
Bonsoir, Max.
Max, mon amour, alors ce qui est
Marianne,
film emblématique pas des Mauvais Genre. Alors, si chaque film vous apprend quelque chose sur vous-même, Charlotte Rampling, celui-là, que vous a-t-il appris?
Celui-là, je l'ai reçu, c'était destiné à quelqu'un d'autre. Par un hasard, j'ai su l'histoire. J'ai su qu'un film allait se faire avec une femme qui a une relation avec un chimpanzé. Et pour la première fois de ma vie, parce que je vais chercher, comme je vous dis, j'attends que les choses m'arrivent, et je vais pas chercher les choses, c'est pas intéressant pour moi, ça marche pas comme ça. Mais celui-là, je dis, mais il faut que je lise ce scénario. Donc je dis mon agent, qui c'est, hein, donc Nagisa Oshima, carrière qui a écrit, mais qui est là-dedans? Donc ils ont dit qu'il y avait cette femme, cette actrice. J'ai dit, comment je vais faire? Parce que je savais tellement que c'est intéressant qu'on va parler de ce film. Ce film, il faut que ce soit moi qui joue cette femme. Et je l'avais même pas lu, peut-être c'était même pas intéressant, mais j'ai prié ou j'ai fait mes trucs, je fais quand je veux quelque chose.
Vous demandez l'intercession des puissances.
Là, je vais pas trop vous dire parce que vous avez pas ouf, lola. Et je me trouve en Australie avec Jean-Michel Jarre à l'époque, et je reçois un coup de fil en Australie de mon agent, disant que la fille de... Elle a décidé, parce qu'elle trouvait que c'était un peu dangereux pour son image, et de faire ce film, et j'ai eu un appel pour toi, pour venir voir Nagisa Oshima pour le rôle. Et on va vous envoyer le scénario. Et après, je repartais par Japon, je dis, oui, mais que, parce qu'on n'avait pas le mail à cette époque-là, mais le scénario et tout ça, donc il l'a envoyé au Japon, parce qu'on passait après par Japon, c'était beau, cette histoire. Et je le lis, et c'est le plus beau scénario que j'ai jamais lu de ma vie. C'était parfait, il n'y avait pas un mot à changer, pas une chose à
ajouter. C'est carrière, c'est le...
Carrière, mais de carrière dans toute sa beauté. Ouais. Et c'était le scénario parfait. Et j'ai dit, j'ai dit au Japon, j'ai dit « absolutely yes ». Et j'ai rencontré Nagisa une semaine après, quand je suis rentrée.
Il est très attaché à Margaret.
Oui, en effet. Mais il est toujours comme ça. Max. Non. J'imagine que c'est un mal. Arrête, maintenant ça suffit.
Margaret, I think you'd better take him back to his room, otherwise he might spoil our evening.
Et là, est-ce que se pose la question de comment le film va être réalisé, de comment vont être les scènes? Parce que Nagisa Oshima, c'est quand même l'Empire des Sens, que j'imagine vous aviez vu.
Bien sûr.
Et donc se poser quand même la question, j'imagine, quand on lit le scénario, de comment vont être tournées les scènes d'amour avec le singe.
Première question, évidemment. Parce que, comme je vous dis, s'il y a des choses qui ne me vont pas, je me retire quand même.
Et d'emblée...
Et c'était pas Nagui ça qui l'a vu, Serge Silberman, le grand producteur, qui est venu à la réunion, et on s'est assis, parce que Nagui ça, il parle pas beaucoup, hein, il dit qu'il avait un traducteur là, mais pendant le tournage, j'avais pas de traducteur, il parle ni anglais ni français très bien. Donc on était là avec le traducteur, et Serge Silberman et moi, et Serge, ils disent, ne t'inquiète pas, je sais la première chose que tu vas demander. Et j'ai dit quoi? Bah si on va voir qu'ils font ensemble. Et j'ai dit oui. Je dis si on le voit, je trouve ça plutôt dégoûtant. Et même je sais pas si ça se peut se faire des fois avec un chimpanzé, qui sait. Mais si on le suggère, oui c'est très bien. Et puis on l'a suggéré.
Oui, mais justement, j'ai l'impression que le film joue entièrement là-dessus de est-ce qu'on va voir ou est-ce qu'on va pas voir. Oui. On est comme le mari,
exactement,
qui d'ailleurs ramène donc une prostituée en disant bah peut-être là j'aurai une occasion de voir et d'imaginer comment ça peut être, et que le film fonctionne en fait entièrement là-dessus. Le générique
film
fonctionne. Du film,
oui,
ça...
mais comme on a vu dans un des empires où elle coupe le zizi, ça aurait pu être.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est... well, we didn't know where we were going. Donc voilà. Non, et le film tient sur ça exactement. C'est un bijou ce film. Je trouve que c'est une petite merveille. Hein. Pas ce que je suis dedans du tout. Mais
d'autant
je
plus
que ça...
là, je m'adresse à la citoyenne britannique.
Oui.
C'est quand même un film qui prend en considération le camp, c'est-à-dire la société britannique, puisque c'est la femme d'un diplomate.
Oui.
C'est pendant la visite royale.
The Queen is coming.
À Paris. Donc. Et il y a ce singe qui s'invite dans l'affaire. C'est quand même un dynamitage quasi presque surréaliste. On pense que c'est presque buñuelien. Je dis pas ça parce que
le traitement n'est pas buñuelien.
Le traitement n'est pas du tout.
Mais l'idée est buñuelien.
Mais il y a un dynamitage à la fois de tout ce qui fait la société. Enfin, je veux dire, ce qui fait les règles, les fonctionnements, les partages, les hiérarchies. Pouf, tout explose avec ce singe comme ça qui apparaît et que vous tenez par la main.
Et qui est complètement accepté. Non, c'est là. Il y a une maîtrise dans la mécanique de ce scénario. Parce que c'était, on a suivi le scénario, hein, mot par mot. Il était là. Tout ce que vous venez de dire, c'était absolument incroyable, comme ça s'emboîtait parfaitement pour donner un sort de wow. Je sais pas, c'est.
Avec là encore des scènes de repas qui sont quand même anthologiques.
Oui.
Ouais. L'arrivée du singe, le singe a une vertu je dirais. Vous avez dit à un moment que vous avez passé votre vie à vouloir desserrer la trame, la texture rigide, justement, qui pesait socialement sur vous. Vous faisiez allusion à la famille de votre mère. C'était des industriels du textile qui travaillaient pour l'église et l'armée. Donc, ils avaient des tissus robustes et tissés serrés. Et vous êtes né dans ce tissage serré. Vous avez voulu élargir la trame. Alors là, il y a quand même un moment d'élargissement de la trame assez important.
Total. Et puis, quand ça passe par le monde animal, donc on a fait le tour. On a vraiment fait le tour. Quand on a cette identification avec un animal qui est le plus proche de nous, c'est on a fait le voyage là.
Et d'emblée, il était décidé qu'il y aurait quelqu'un dans le costume du singe.
Pardon ?
D'emblée, il a été décidé que c'était pas un vrai chimpanzé, qu'il y aurait quelqu'un, il y aurait une gymnaste dans le costume.
Oui, parce qu'un chimpanzé de cette taille, on peut pas l'entraîner. Il est d'une force inouïe et on peut pas l'entraîner. Les petits chimpanzés qu'on voit, qu'on peut entraîner, sont de 2-3 ans, c'est tout. Et un grand chimpanzé comme ça, il a 10 ans, ça c'est fini. Ils sont méchants quand ils sont plus grands.
David Cronenberg a dit, vous un jour, vous aviez la grâce d'un spectre. Mais à parler avec vous et à passer justement, je parle en revue, puisque votre père était comme votre père, mais à passer en revue certains de vos films, vous êtes tout sauf un spectre.
Oui, mais il a vu autre chose. Il a vu l'invisible autour.
L'aura.
Peut-être, oui.
L'invisible, j'ai l'impression qu'il y a un cinéaste qui a beaucoup exploré ça chez vous, c'est François Ozon. Parce que, notamment dans Sous le sable et dans Swimming Pool, c'est incroyable le nombre de séquences où en fait il n'y a pas de mots, il n'y a pas de dialogue, et du coup, c'est pas l'invisible, c'est l'indicible en tout cas, puisqu'on ne dit pas, et en même temps, votre interprétation est évidemment très parlante, mais je pense que c'était un goût chez lui d'aller chercher en vous quelque chose qui passait par autre chose que par les dialogues.
Oui, je pense que c'est un petit peu ce que voulait dire Cronenberg par rapport à ça. Il y a le langage intérieur de quelqu'un qui peut être très filmique. Il y a certaines gens qui savent se donner sans mots. Et là, on parle pas de cinéma muet, parce que cinéma muet, c'est différent, c'est très expressif, le cinéma muet. Mais là, on parle de choses de tous les jours, sans trop de paroles. Et il faut avoir une certaine, je sais pas d'où ça vient, mais voilà, je pense pas qu'on pourrait le faire ça avec tout le monde, ça.
Alors, le premier film que vous faites ensemble avec François Ozon, parce qu'il y en aura quatre, enfin, il y en a quatre à ce jour, peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Le premier film, vous êtes presque à co-écrire le film avec lui, parce que c'est quelque chose d'assez dingo comme aventure, c'est-à-dire que ça s'appelle Sous le sable, vous jouez donc l'épouse de Bruno Kremer, qui disparaît. Il disparaît au bord de la mer, alors que vous étiez en train de lire sur la plage.
Et on ne le voit pas disparaître.
On ne le voit pas disparaître, et vous non plus. Voilà. Et la particularité du film a été que François Ozon vous a dit à tous les deux, on va arrêter le tournage quand on aura fini de tourner ces séquences-là, et je vais prendre du temps pour réfléchir à quoi va être la suite. Quoi. Et là, je crois que vous avez participé avec lui.
Ben, on a passé du temps, parce qu'il fallait qu'on attende, pour d'autres raisons aussi. Oui, comme il écrit beaucoup, il écrivait, il me montrait, on se rencontrait, on voyait, parce que le problème avec ce film, pourquoi c'était très difficile à financer, et finalement c'est les Japonais qui l'ont financé, peut-être parce qu'ils sont plus dans le silence que nous. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vit dans l'absence de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Il peut pas être nécessairement dans l'activité. Il peut pas nécessairement être en train de, où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis très malheureuse. Donc, inventer une histoire après une disparition comme ça, c'était très difficile. Donc, c'était pour nous, ce qui était bien, parce que je pense que c'est 5 mois ou 6 mois avant qu'on commence à retourner. C'est que nous, avec François, parce que je le connaissais pas, là, venait se rencontrer, c'est là où on a commencé vraiment à voir quelque chose qui se passait avec nous, quelque chose qui de la fibre créative de nous deux commençait à, vraiment.
Faut dire aux auditeurs qu'en moment où vous parlez, vous pétrissez avec vos mains.
Oui, comme je fais avec mes sculptures et tout ça. Donc je pétrissais un petit peu François là. Comment François? Et on a établi un rapport après sur le tournage vraiment extrêmement joyeux parce qu'il peut chercher en lui justement la matière noire profonde, difficile et douloureux ou anxieux, mais lui c'est un être très joyeux, c'est-à-dire qu'il donne la joie quand il filme. J'ai pas rencontré un metteur à ce point comme ça. Il est, parce qu'il est derrière la caméra aussi, donc il filme, il regarde tout lui-même et son propre cadreur. Ouais.
Votre mari avait-il des raisons professionnelles ou sentimentales de disparaître?
Non.
De se suicider? Aviez-vous remarqué un comportement dépressif ou vous avait-il parlé d'une lassitude, d'une envie d'en finir?
Non.
Bon, très bien. Nous allons maintenant être obligés, pour l'enquête judiciaire, de vous demander une description physique très précise du disparu, votre mari. Tout ça au cas où vous n'auriez pas de nouvelles dans les jours qui viennent. Il va également vous être demandé des détails médicaux, s'il a subi des opérations chirurgicales, des fractures osseuses.
Jean ?
De Bruno Kremer, alors là du coup grande stature, d'un poids. Enfin, d'ailleurs, à un moment, le poids de Bruno Kremer est évoqué, à un moment X, si on veut dire. Et cet homme disparaît. On ne le voit pas mourir, on ne le voit pas disparaître. Il sort du cadre. Et après, la vie n'est plus que cette espèce de vie en creux. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là, mais il n'est jamais là. Et donc, c'est son absence qui est omni... Il est omni-absent.
Oui, sauf qu'il revient en fantôme, étrange fantôme. Inventé. Et ça, on a fait parce que sa présence était tellement forte et sa disparition était tellement forte qu'il fallait qu'on le fasse revenir d'une certaine manière. Il fallait qu'il soit incarné à quelques moments, à nouveau.
D'autant que Kremer fait partie de ces rares acteurs qui n'ont rien besoin de dire pour être.
Oui.
Il suffit qu'il soit là pour que quelque chose se mette à rayonner. Donc
voilà.
il est parfait pour un spectre, si on peut dire. Puisque simplement son image parle pour lui. Donc voilà.
Ouais. Il est peut-être en train de
nous
écouter, le spectre.
Et à ce moment-là, vous vous dites qu'avec Ozon, vous referez bien quelque chose?
Oui, bien sûr. Mais bon, ça, avec la, de retravailler avec les metteurs en scène, très souvent, voilà, ça, comme c'est particulier ce que je recherche, c'est pas pour ça un metteur en scène va. Sauf, si, les metteurs en scène parfois écrivent, souvent pour une actrice, mais c'est pas systématique.
Alors, en 2003, donc, c'est le second film avec François Ozon, Swimming Pool, où vous jouez ce qu'on appelle les Crime Queens.
Oui.
C'est-à-dire l'équivalent d'une...
Ruth Rendell.
Ruth Rendell ou de Agatha Christie.
Patricia Highsmith.
Question sur Trampling. On vous a jamais proposé beaucoup de rôles dans ces fictions policières anglaises. Vous avez joué dans Chapeau melon et bottes de cuir. Et donc là, c'est ce personnage de Crime Queen. Comment a-t-il été construit? Parce qu'il y a...
Alors, il était construit 2 ans après qu'on a fait Sous le sable, il m'a demandé d'aller dîner avec lui. Bon, on est allé dîner. Il a dit j'ai une autre idée. Donc il m'a juste décrit la trame, l'écrivain. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai dit j'aimais beaucoup l'idée d'un bad-tempered crime writer. Ça, grumpy. You know, le mot grumpy, bad-tempered veut dire toujours de mauvaise humeur. Ça,
oui,
j'aime
ça.
Beaucoup cette idée. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup, souvent de mauvaise humeur. Vous ne le voyez pas parce que je suis là. Mais... Donc, bad-tempered writer, ça me plaisait énormément. Et puis, l'idée, la trame avec la fille qui a vive, machin et truc. Et donc, il est parti l'écrire. Et puis, on a tourné.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même la discussion. Et je crois que sur Sous le sable aussi, avant de l'écrire, même le début, il avait discuté
oui,
avec
absolument,
vous.
Oui, absolument.
Il y a cette idée que... Et du coup, il écrit pour vous.
Oui, oui. Ces deux-là, absolument, oui.
Et ça, c'est quelque chose d'assez unique dans votre filmographie, cette manière de travailler ou...
Oui, oui. Je pense que j'ai inspiré certains, après qu'ils ont écrit, et ils peuvent peut-être dire « Ah, mais je pensais à vous en écrivant, on ne sait pas ».
Et donc, ça veut dire que là, il y a des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils vous montrent en cours de route
Toujours, ils me montrent en cours de route, oui.
Et vous dites ça oui, ça plutôt non.
Oui, ou je collabore, voilà. C'est même pas le oui ou non, c'est s'il a une direction qu'il prend, il aime avoir cette forme de collaboration. Ça le rassure, je pense. Je sais pas s'il fait toujours ça. Non, je pense maintenant il écrit avec quelqu'un depuis un moment là maintenant. Mais là il écrivait seul.
Et là, y a une confrontation avec une jeune comédienne qui est Ludivine Sagnier.
Oui.
Et c'est quelque chose d'important pour vous à ce moment-là de votre carrière de vous retrouver face à un personnage plus jeune avec une relation qui est pas une relation de mère à fille qui est tout autre chose,
oui,
qui est plus
ça,
complexe.
C'est, oui, ah oui, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé cette relation avec Ludivine. Parce que, comme j'ai dit, je voyage dans ma vie avec mes films. Donc à chaque âge, je suis dans un registre de l'âge que j'ai et je continue en train de faire une forme d'investigation sur moi-même et sur l'historique du film, comparer, etc. Et celui-là, donc j'avais, dans la cinquantaine là, quand je fais ça. Donc j'étais une femme dans la cinquantaine. Et la relation avec et un écrivain aussi, donc qui décrit les gens. Et donc il y avait quelque chose de charnel, comme si je voulais manger cette fille, comme si je voulais la dévorer presque, parce qu'elle était tout pour moi d'un coup. Elle avait tous les ingrédients pour un crime writer, voilà. Parce qu'elle était, voilà. Donc je l'ai vue comme ça. Et ça, c'était assez réjouissant.
Alors, autant Sous le sable est un film sur le deuil, autant évidemment Swinging Pool, un film sur le désir. Avec justement l'idée qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puisqu'à la fin, il y a l'apparition d'une autre jeune fille qui lui ressemble. On ne sait pas si...
Vous croyez ça?
On a revu le film là récemment. Pour moi, je pense qu'elle a vécu une période de détente studieuse dans la Villa du Sud avec la fille de son éditeur, qui est une petite jeune fille, tout ce qu'il y a de sympathique, et bon, qui s'est vraiment rien passé, et que toute la dimension Ludivine Sagnier du film est de l'ordre du fantasme, du rêve, à partir d'une situation réelle qui ne nous est donnée qu'à la fin. Lecture personnelle.
Oui, oui. Bah, c'est ce qu'il veut. Il voulait faire travailler justement les gens qui voient le film, elle est totalement inventée.
Oui.
Oui, oui.
C'est un fantasme.
Voilà, c'est un fantasme, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce fantasme passe par la relation au corps.
Oui.
Et du coup, c'est un film qui est très fort par rapport à vos précédents films, ceux qu'on évoquait dans les années 70, où le corps était vraiment très mis en avant, et aussi le travail sur la nudité.
Oui.
C'est un film où vous n'hésitez pas à vous montrer nu, qui joue aussi sur la nudité
des portiers de nuit. Hein, plus
une... Là, vous parlez de la nudité de Ludivine, ou le moment où je me...
Oui.
Mais surtout de l'érotisme du personnage de Ludivine, et comme elle est montrée, ça c'est vu par elle, donc inventé par elle, c'est ce qu'elle veut, cette forme de charnalité, non?
Très charnel.
Oui, charnel. Oui.
En tout cas, une érotisation des rapports, des corps, et évidemment cette lumière du Luberon où le film est tourné. Mais ce qui est très intéressant, c'est le côté aquatique en même temps.
Oui.
Dans mon souvenir, un lien entre la Tamise, il y a un raccord, oui. Un
fond enchaîné. Le premier plan, c'est la Tamise.
La Tamise, et après la Tamise et la piscine.
Le premier plan de Sous le sable, je crois que c'est la Seine.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison.
Il
est très aquatique, hein, ces films, ces films courts, les courts-métrages, très aquatiques.
Regarde la mer.
Oui,
regarde la mer.
Et
en quelque sorte, presque un brouillon. De Swimming Pool, avec c'est même un personnage d'anglaise qui a cette maison toute seule et qui accueille une jeune fille chez elle. Alors c'est un autre contexte, mais il y a une sorte de relecture. Et en même temps, quand on revoit, moi je revois à la suite Swimming Pool et Sous le sable, et finalement j'ai l'impression que parfois c'est filmé de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a ces mêmes plans sur vous. Sans dialogue, ou qui viennent dire énormément de l'intériorité du personnage.
Oui, c'est un. On peut les mettre tous ensemble. Les deux sont ensemble. C'est deux films jumeaux. Et faits justement très one after the other, l'un derrière l'autre.
Avec huit femmes entre les deux, en fait, dans la carrière.
Ah non, il y avait huit femmes.
Il y a huit femmes entre les deux.
Oui.
Il y a huit femmes où vous n'êtes pas. Voilà, comme si cette expérience avec huit femmes avait peut-être redonné un coup de... Parce que huit femmes est un film adapté d'une pièce de théâtre.
Voilà.
Et en fait, chez Ozon, on peut dire qu'il y a deux côtés, quoi. Il y a les côtés avec des trames très... Parce que c'est d'après le théâtre, et du coup, il y a une trame qui est héritée d'un matériau autre, auquel il est relativement fidèle. Et puis, il y a des films plus comme Sous le sable ou Swimming Pool, où on part d'une idée à lui... Et où il doit travailler cette patte pour accoucher des personnages et d'une intrigue. Et du coup, c'est des choses qui sont plus ouvertes, qui sont plus...
Plus dans la respiration, en fait, ouverte, oui. C'est curieux, hein, comme d'avoir ça au milieu, en fait. J'avais oublié. Ouais. Et les gens, ils étaient choqués que je n'étais pas dedans. Et je dis, non, moi, j'ai mes films à moi. Moi et Ozon.
Sorry, I woke you up.
No.
I was just dozing.
You must be working too hard. You should have a swim in the pool. The water's cold. It'll wake you up.
Well, thank you for your advice, but I absolutely loathe swimming pools.
Yeah, I know what you mean. I prefer the sea too. The ocean. no feeling of infinity. It's just a big bathtub.
It's more like a cesspool of living bacteria.
So, what are you writing? A romance novel?
God, no, I write crime fiction.
Oh, yeah. That's how he makes his money.
And that's how he can afford to buy a beautiful house in France for his daughter to enjoy.
What about you? Are your books selling well?
I can't complain.
What's this one about?
Murders and a police investigation.
In the Luberon, with rich English tourists?
Listen, if you don't mind, I do have work to do.
Okay, I'll leave you alone, Miss Marple. I need to make some phone calls anyway. Non, je sais pas. Going shopping?
No, I'm going to have lunch in the village.
What a good idea. By the way, I spoke to Marcel. He's coming very soon for the poulain. Putain, l'anglais, ce qu'il a ramené, l'un de ses balais dans le cul.
Deux autres films avec lui, mais où vous avez des petits rôles.
Oui, juste des petits rôles, oui.
C'est Angel, c'est la femme de l'éditeur.
Ouais, ouais.
Personnage jaloux, menacé, ouais. Revêche, mais très, très émouvant par là même.
Ouais.
Avec ce personnage étonnant d'une romancière populaire qui brusquement occupe toute la place et bouleverse un peu le milieu de l'édition anglaise. Là aussi, c'est une forme de crime queen, mais décalée.
Ah oui, 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 mais c'est plutôt sort of romantic novels,
oui, c'est ça,
you know,
oui,
in
c'est
that
ça.
Way that
oui.
Je peux avoir l'édition.
On peut vraiment tout
s'il
dire
vous plaît.
Là-dedans. Et c'était la première apparition pour beaucoup de gens de Fassbender, vous vous souvenez?
Oui,
Michael Fassbender.
Oui, bien sûr.
C'est après qu'il a commencé avec Steve McQueen et tout ça. Je me souviens de lui.
Et vous êtes avec Sam Neill. Je crois que François Ozon s'appuie un peu sur vous pour presque faire comprendre à Sam Neill certains éléments de jeu d'acteur.
Oui, c'est vrai, oui, un petit peu, oui. Qu'est-ce qui se passait là?
Parce qu'en fait, vous avez dit qu'à l'époque, vous disiez que Sam Neill, comme souvent les acteurs britanniques, ne font pas assez confiance à la mise en scène. Peut-être que le concept est plus français. Et que du coup, la mise en scène dit tellement de choses que l'acteur, souvent, a moins de choses à exprimer directement avec des mots ou des mimiques.
Oui.
Et que c'était que
oui, c'est différent, c'est vrai, c'est différent. Et on croit et ça donne le côté surjoué parfois des acteurs qui ne comprennent pas ça. Il y avait ça et un petit peu de ça parce qu'il y a une articulation autre que si tout le monde joue comme ça et c'est dans une mise en scène qui les demande, ça va, mais si on est juste un qui joue comme ça, c'était à ce niveau-là, oui.
Est-ce qu'on peut parler du film que vous venez de tourner, Charlotte Rampling?
Non, malheureusement pas.
Bah, on peut dire, nous, on peut dire le titre, vas-y.
Benedetta.
Oui, on peut dire que le vague histoire.
Voilà, Benedetta, donc c'est d'après un ouvrage paru en France il y a pas mal d'années, chez Gallimard, de Judith Braun, une enquête sur une affaire sulfureuse d'abbesse. À la fois mystique, érotique, toutes ces affaires qui mêlent toujours le mysticisme à l'érotisme, et il y en a de plus en plus. C'était aussi l'affaire de la Carmel, la supérieure du Carmel d'Alger. Là, c'est une affaire identique.
Oui, c'est une affaire comme ça. Ouais.
Mmh. On n'en saura pas plus pour l'instant.
On ne saura pas.
À se retrouver pour.
Il y a tout un casting. Hein.
Non, mais le casting, j'ai quand même une abaisse d'un certain âge. Hein. Donc, moi, je vis mon chemin et je suis arrivé à un âge où on ne me demande pas de faire trop de ces choses-là. Donc, c'est les jeunes qui le font.
Oui, c'est Virginie Efira, il y a Clotilde Gros, il y a Lambert Wilson aussi qui.
Oui, Lambert, qui joue le nonce de Venise. Et je pense, moi j'ai, I have a good feeling pour this film. Je pense que Paul Verhoeven, que j'ai trouvé fascinant, un homme magnifique. Et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et je pense qu'il a créé quelque chose de très juste dans cette histoire sulfureuse. Ouais.
Les comédiens qui ont travaillé avec lui me disent qu'il est très attentif.
Très attentif.
Très attentif et qu'il cherche là aussi dans le regard. Il cherche à capter le regard pour tirer quelque chose et que c'est très physique les tournages sur le plateau avec lui pour cette raison-là.
Oui, oui.
C'est, il veut, bon, si on... Et c'est en français le film, parce que
ah oui.
Oui, parce que ça passe mieux, le sulfureux passe mieux en français
pour, les,
pour l'international, parce que peut-être ils mettent des traductions qui sont et puis bon, ils ont des images. Mais, et lui il aime parce que he has his freedom, il a la liberté aussi ici en Amérique, c'est trop, ils sont trop contraints à contrôler les choses qui se veut un petit peu
sulfureux.
Oui, et puis sulfureux dans le bon sens, vraiment, pas juste pour être sulfureux, mais qui font intégralement partie des respirations du film. Et donc, il, comme vous dites, il veut sentir dans le regard tout. Et même si, parce que l'on parlait français, il parle très bien français, mais parfois, bon, on brouillait les lignes ou machin, on dit, it doesn't matter, c'est fantastique, c'est comme ça. Ou il fera après. Du moment que le moment où vous êtes en train de jouer votre chose, vous êtes vraiment dedans, ici.
Voilà. Je vous pose une question traditionnelle. Est-ce qu'il y a un personnage que vous attendez encore aujourd'hui pour interpréter une sorte de rêve dramatique comme ça?
Non, j'ai jamais pensé à ça.
C'est l'idée de ne pas aller chercher.
Et oui, et si ça ne vient pas, ça veut dire que ça ne viendrait certainement pas par moi. Mais parce que je lis les livres et tout ça, mais jamais pense, oh, ça c'est un rôle que je pourrais. J'ai jamais pensé ça. C'est quelque chose, ma façon de avancer dans le monde a toujours été, il faut qu'on m'invite à danser. Ce ne serait pas moi qui vous invite à danser.
Merci, Charlotte Rampling, d'avoir répondu à notre invitation à danser. On est très heureux, très touchés. Merci,
moi aussi,
merci infiniment
merci
pour
beaucoup,
tout,
beaucoup.
Et puis pour tous ces films depuis toujours.
Merci.
Merci.
Merci. To be such a jerk to me, honey. Lick me like honey from a spoon. I want it dissolve into you. Lick me like honey from a spoon.
C'était donc la seconde partie du grand entretien accordé par Charlotte Rampling à Mauvais Genre sur France Culture. On remercie bien évidemment une nouvelle fois et plus que jamais Elisabeth Prouveau et Suzanne Taraziev, la photographe qui a donc travaillé avec Charlotte Rampling à l'occasion de la sortie d'un livre paru récemment chez Bernard Dumerchais, et la galerie Suzanne Taraziev, de nous avoir permis de concrétiser ce vieux désir d'entretien avec Charlotte Rampling et d'avoir rendu possible. On va maintenant passer à la chronique du jour. Alors, j'avais annoncé Le corps et le fouet de Mario Bava et Venez donc prendre le café chez nous d'Alberto Latouada. On va se limiter au second et on traitera plus tard le premier puisque nous en parlons, je pense, au mois d'avril. Alors, Alberto Latouada, Philippe Rouillet. Vous cadrez un peu le personnage puisque on a un peu parlé de lui à Mauvais Genre, mais pas tant que ça.
Ouais, c'est quelqu'un qui naît en Italie en 1913, qui a une cinéphilie très forte et qui, avant de faire des films, s'intéresse à la sauvegarde des copies, etc. qui écrit dès 38, il écrit dans un journal, alors malheureusement pour lui, antifasciste, donc ça va pas durer,
oui,
évidemment, 38 en Italie, qui a un bimensuel, je crois, où il est critique.
C'est déjà beau qu'en 38 en Italie, il y a un antifasciste.
Voilà, mais c'est vous dire que c'est quand même très périphérique comme publication. Et où il est critique de cinéma, voilà. Et il va basculer pendant la guerre avec Giacomo Lideali, son premier film en 43. Il est également monteur, voilà. Et il va construire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait partie de ces cinéastes italiens qui, de ce côté-ci des Alpes, pour nous, sont mal connus. Alors, précisons tout de suite qu'en ce moment, il y a une grosse rétrospective à la Cinémathèque française qui a commencé mercredi. Et jusqu'au 25 février, il y a une trentaine de longs métrages de La Tuada qui sont présentés. Donc c'est vraiment l'occasion, parce que vous n'en trouverez qu'une dizaine en DVD. Hein. Et ce qui est intéressant à La Tuada, c'est quelqu'un comme Bolognini, c'est des gens qui ont prospéré à l'ombre de figures tutélaires comme Rizzi, Botticelli, Visconti, mais qui n'en sont pas moins intéressants. La Tuada, l'œuvre est diverse. Il a fait des adaptations, notamment russes. Hein. Il y a Le Manteau, il y a Cœur de chien
d'après Bulgakov. Si on aimerait la voir en DVD.
On avait parlé à Mauvais Genre de Mafiosi, ce film qui est un des meilleurs films de mafieux. Hein, avec Alberto Sordi, cet aller-retour à New York pour tuer quelqu'un. Et La Tuada racontait que les mafieux avaient vu son film. Et il n'en menait pas large. Et il lui avait dit, mais bravo, c'est exactement comme ça que ça se passe. T'as su complètement nous capter. Alors, quand on parle de La Tuada, on parle évidemment d'érotisme. C'est quelque chose qui vient, et toute la dernière partie de son œuvre est très tâtée d'érotisme, mais qui est toujours matinée de critique sociale. Et c'est pour ça que Venez donc prendre le café chez nous, 69 ou 70, c'est exactement cette veine-là.
Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta. Basta con le soluzioni avventurose. Alla mia età, come dice il Mantegazza, l'uomo ha bisogno dei famosi 3C. Carezze, caldo, comodo.
Voilà, on entend une musique d'orgue, une voix un peu posée, ce qui montre bien ce qu'il en est de cette histoire. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et derrière l'aspect policé d'un ancien combattant devenu fonctionnaire impeccable, eh bien se cache la médiocrité, la vulgarité et une insatiable bestialité, dirais-je.
Voilà, c'est ça, c'est Tony Azzi, donc l'acteur principal, qui disait que c'était vraiment l'apologie de la médiocrité. Et donc voilà, il est très content de lui, il est sous-directeur dans l'administration comptable, et à l'approche de la cinquantaine, ce qu'il lui faut, c'est les 3 C, donc confort, chaleur, voilà, et caresse. Et s'il y a un peu d'argent, bah, pour le confort, donc il brigue l'héritage de trois vieilles filles, dont on voit, c'est très intéressant, le générique de début, c'est la mort de leur père, qui est naturaliste. Et ça donne le ton du film. C'est-à-dire qu'on peut penser que La Tuada jette un œil presque d'entomologiste ou de naturaliste sur ces personnages qui les voit se débattre, des personnages un peu monstrueux, englués dans la médiocrité ordinaire. Donc le plan de ce comptable, c'est d'épouser une des filles, l'aînée, de mettre main basse donc sur la fortune. Et une fois qu'il est là, bah, il est comme un coucou dans son nid. Et puisqu'il y a deux autres sœurs et une soubrette, pourquoi se priver ? Voilà. Et cet homme qui, évidemment, est le contraire de la culture, enfin, qui n'aime que, j'allais dire, les plaisirs terrestres, c'est presque le début de la grande bouffe. Mmh. On est à 4 ans de la grande bouffe. Et il y a les prémices de ça, c'est-à-dire que lui, ce qu'il voit, c'est manger, boire et faire l'amour, en gros. Et quand je dis faire l'amour, je suis gentil, ce serait plutôt baiser qu'il faudrait dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a les trois scènes, les trois premières fois avec les trois sœurs, et La Tuada va trouver des manières différentes de les filmer. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment c'est finalement la fin du mal italien qui est déjà là. Comment petit à petit, il est victime de son jeu. Celui qui se prétend étalon n'est qu'un médiocre fornicateur. Et il est complètement submergé par le désir de ces trois furies. Je veux dire, il y a une image très célèbre où on voit la tête de Tony Azzi à travers la cuisse, les cuisses repliées sous forme de triangle d'une des deux sœurs. Et c'est exactement l'image du film. C'est-à-dire qu'il va être petit à petit étouffé par la chair qu'il convoitait. Et il y a quelque chose de totalement savoureux là-dedans. C'est l'adaptation d'un roman qui se passait pendant la montée du fascisme. Et le choix de l'avoir déporté à l'époque actuelle, donc à la toute fin des années 60, permet d'avoir une critique de mœurs beaucoup plus savoureuse, parce que c'est autre chose de taper sur le fascisme que là de montrer l'administration, la bourgeoisie, évidemment l'Église qui est là. C'est pour ça qu'on entendait cette orgue et cette satiété, et avec une ironie extraordinairement noire.
Voilà, une des plus noires, parmi les plus noires, comédie italienne. Venez donc prendre Le Café chez nous d'Alberto Lattuada, fort opportunément réédité, édité en DVD par Tamasa, avec un très joli livret explicatif de Jean Gilly. Et ressorti en salle. On se quitte avec, bien évidemment, Christophe Beer.
Extrême cinéma, tout est dit. Ce festival qui se déroule tous les ans à la Cinémathèque de Toulouse ne fait pas dans la demi-mesure. Les films programmés y sont de genre, bis d'exploitation, de mauvaise réputation, cinéma d'aspérité. Né en 1998, Extrême Cinéma est passé par toutes les durées, toutes les saisons, mais a vaillamment tenu le cap et fête désormais ses 20 ans de turbulence. La liste des invités témoigne de son dynamisme. Franck Hennen, l'auteur, le parrain officieux du festival, Thierry Zeno, Macha Merrill, Jean Rollin, Nick Zed, Jeff Lieberman, Brigitte Lahaie, Richard Stanley, tant d'autres, Jean-Louis Van Bell. Les assidus d'Extrême y ont vu du redneck hargneux, du mondo bizarro, du chaos et des nains. Extrême a tout osé, même l'affligeant Clodo et les Vicieuses, dernier film de Bourvil agrémenté de plans hard. Ce nouveau cru s'ouvre en beauté avec Norihubu Kata, expert du synthétiseur et du thérémine, qui accompagnera une page folle de Teinosuke Kinugasa, dont la beauté expressionniste rompait avec le naturalisme du cinéma japonais de 1926. La suite est fidèle aux grands écarts d'Extrême Cinéma. Nous sautons de L'Arbalète de Sergio Gobbi, avec Daniel Auteuil nettoyant les bas-fonds du Paris des années 80, aux abîmes pédécuir de Cruising de William Friedkin, dont sera aussi programmé l'étouffant Bug, au cœur de la dérive mentale la plus terrifiante. La folie est le thème souterrain qui gangrène toute la programmation, depuis les mises en abîme orchestrées par Bigas Luna dans Angoisse, avec son collectionneur de globes oculaires, jusqu'à Perversion Story, variation de Lucio Fulci sur le Vertigo d'Hitchcock que présentera Jean-François Roger, en passant par La raison du plus fou, road movie absurde conçu par Raymond Devos dans la France rurale de 1973, pour finir, sidéré par l'outrance de maléfice porno d'Eric de Winter, cauchemar hardcore né de l'impuissance du personnage principal dans les intestins noirs d'une authentique caverne de l'Oise. Lou Castel viendra présenter deux joyaux de sa filmographie, Tu es fait ta prière, western révolutionnaire de Carlo Licciani, et Cambio de sexo de Vicente Aranda, dans lequel Victoria Abril joue un homme qui change de sexe. Ajoutons encore Cry Baby de John Waters, des courts-métrages explicites, un trintignant justicier dans l'agression, une farce cannibale anglaise, une nuit spéciale 80s et deux Mario Bava 2, présentés par Didier Lefebvre, fan éditeur de Medusa Fanzine. Car les fanzines seront également à l'honneur cette année avec une grande exposition. Notez les dates du 8 au 16 février à la Cinémathèque de Toulouse, 69 rue du Thor.
Notez les dates, comme dit Christophe Beer, du 8 au 16 février, je répète, Le Mauvais Genre et Toulousain. Pendant toute cette semaine, nous avons donc ce soir, eh bien entendu, pour une seconde partie d'entretien Charlotte Rampling, signé donc La Chair de l'Orchidée en DVD Blu-ray Collector et la dernière parution importante, on peut la voir sur la couverture. D'ailleurs, et puis surtout à ne pas rater, Venez donc prendre Le Café chez nous d'Alberto Lattuada, comédie noirissime, paru chez Tamasa. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Valérie Lavalard, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnet, Philippe Houillet, Christophe Beer et François Angelier sont heureux de vous avoir proposé cette émission. À se retrouver donc samedi prochain, nous serons en compagnie d'Anne Besson pour son dictionnaire dans la fantasy paru aux éditions Vendémiaire. Et d'ici là, bonne nuit à tous.